Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 23 avril et c'est Cinérama. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un sommaire très hétéroclite. Bonjour Manu, bonjour Vincent.
Bonjour.
De quoi allons-nous parler ?
Oh, eh bien, moi, j'ai pas vu de film cette semaine, alors je vais simplement vous parler brièvement de Rio 2.
Honte sur toi !
On a échappé belle, j'ai failli voir, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, c'est ça ?
On t'en a dissuadé, hein,
je crois. Oui, c'est vrai, on en a dissuadé, je crois que je suis perdu pour le ciné. Et puis, d'un coffret DVD qui sort, qui est sorti déjà, il y a très peu de temps, de Yves Boisset, un cinéaste assez méconnu, qu'il serait temps de redécouvrir hein, et de réévaluer ses films à sa juste valeur.
Et toi, Vincent ?
Eh bien, moi, j'ai simplement vu Girafada, qui était donc présenté au Cinémètre 2000. Pourquoi tu ris, Manu ?
Non, j'attendais que tu donnes le nom du réalisateur, c'est pour ça.
Ah, Rani Masala. Voilà. Et donc, on écoutera une interview de ce réalisateur, puisqu'il était présent au Cinémètre 2014. Ça faisait partie des films de la compétition, finalement, qui étaient les plus, je dirais, simples à voir, les plus populaires. Voilà.
Très bien. Et moi, je vous parlerai du dernier film de Xavier Dolan, Tom à la ferme. Et on aura également au téléphone le réalisateur montpelliérain Fred Grousset qui vient de présenter son tout dernier film entièrement tourné à Montpellier avec une équipe montpelliéraine, Paranormal, Bad Trip 3D. On en parlera en fin d'émission. Et on commence tout de suite avec Girafada, c'est Cinérama.
Cinérama. Cinérama sur Divergence FM.
Voilà, donc un film présenté au cinéma de 2014, Girafada de Rani Masala, qui sort aujourd'hui et qui est projeté uniquement au cinéma Utopia. C'est l'histoire de Yassine, qui est vétérinaire dans le dernier zoo de Palestine. Et son fils Ziad, 10 ans, passe beaucoup de temps avec les animaux et il a un lien particulier avec les deux girafes, donc un couple de girafes. Mais une nuit, après un raid aérien sur la ville, le mâle meurt. Le vétérinaire donc va chercher par tous les moyens à trouver un nouveau mâle, parce que la femelle girafe se sent pas très bien et son fiston non plus forcément. Donc il y en a dans le territoire israélien voisin. Voilà, donc ça va être ça le film. Hein. Ça va être comment il va aller du côté des Israéliens, comment il va trouver le moyen de récupérer un mâle girafe. C'est un film poétique, c'est bordé par des métaphores politiques évidemment, et c'est teinté de surréalisme. On écoute Rani Masala qui était donc présent au Cinémède 2013.
Alors le contexte politique du film, ça se passe au début des années 2000. Faut rappeler que le titre du film c'est Girafada, donc c'est une contraction entre girafe et intifada. Maintenant, manifestement, la situation sur le terrain n'a pas vraiment évolué dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a toujours le mur, il y a toujours les checkpoints, il y a toujours les colonies qui continuent leur expansion. Et ça a été encore le cas cette semaine avec Benjamin Netanyahu qui a annoncé 5000 nouvelles colonies dans les territoires palestiniens pour l'année qui allait suivre. Maintenant, le film traite d'une histoire entre un enfant et une girafe et un rapport d'un enfant à son père. Et c'est un triangle comme ça qui se crée entre eux. Mais je trouvais ça essentiel de placer ça dans un contexte politique fort sans être trop pushy non plus sur ce contexte-là, parce que c'est pas le sujet non plus du film complètement, c'est une trame. C'est quelque chose qui est un background donc à l'histoire de la girafe et de cet enfant. Maintenant, on n'aurait pas pu, je pense, s'en délecter parce que dans cette région du monde, la politique a une place très importante. Les enfants sont politisés parce qu'ils naissent dans un contexte difficile et quand tu es un enfant, tu poses des questions, donc tu ne comprends pas ta situation. Tu vois. Et quand un gosse doit passer le checkpoint pour rentrer chez lui ou qu'il ne peut pas aller à la mer alors que c'est à 13 km...
Il est forcément politisé.
Il est forcément politisé parce qu'il veut comprendre. Et un enfant, ça pose des questions. Et donc, contexte existe. Le contexte, même s'il s'inspire de faits survenus aux années 2000, n'a pas évolué dans le bon sens. Et le zoo de Qalqilia est toujours un lieu de vie, un lieu un peu magique pour tous ces gosses de ces gens de nuit, quoi.
ريت طبعا مش هي اللي صدفي
Mais on aurait pu imaginer cette même histoire en Bosnie, entre les Kosovars et les Serbes. Enfin, ça aurait pu exister, vous voyez. Et le message, c'est le même, c'est que l'animal dépasse les frontières. Il est ni israélien, ni palestinien, ni juif, ni musulman, ni chrétien, ni arabe, ni quoi que ce soit. Et c'est une sorte de symbole qui regarde les hommes d'en haut avec hauteur et recul. Et qui a toujours son coup droit, c'est-à-dire qui marche droit dans ses bottes, c'est-à-dire qui n'est pas corrompu.
I'm a veterinar and I'm going to deliver a cage.
Mother.
Forceps.
Le point de vue artistique, il a été clair depuis le départ. On voulait faire un film grand public. Et un film haut en couleur, charmant, dans le traitement de l'image, vous voyez, et pas quelque chose de dur à l'épaule, avec une caméra qui bouge, dans un style documentaire. Donc là, on est plus dans une esthétique plus léchée, quoi.
You don't understand. She keeps refusing to eat.
La première scène que vous avez vue de Checkpoint où le soldat est très agressif et parle du fait qu'il y ait beaucoup d'Arabes en France, par exemple, c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement. C'est-à-dire, j'étais avec ma première assistante au Checkpoint, qui est une femme, une grande blonde, ma première assistante, donc on était là entre deux territoires. Moi, j'ai quand même une tête d'Arabe. Hein. Et puis le soldat, il voit ma première assistante, il prend, tu vois, il l'agresse un peu, il demande ses papiers, il fait ah, t'es français, il fait ah, y a beaucoup d'Arabes en France, il lui jette les papiers à la gueule. Nous, on se marrait dans la bagnole parce que bon, on est français, on sait que in fine, c'est terrible à dire, mais comparaison aux Palestiniens, à la fin, toi, tu rentres en France chez toi, et voilà, lui, c'est, alors que le Palestinien, c'est son quotidien, tu vois. Et la fois d'après, on tombe sur le soldat, pff, rien à foutre, allez passer, ça va les gars. Donc il était. Enfin, dans une logique très bizarre, très schizophrène, si vous voulez. Ces soldats, faut se dire une chose, c'est des gens de 18 ans qu'on envoie, quand même. Il faut se mettre dans leur psychologie. Hein.
Oui, bien sûr.
On les envoie dans un territoire voisin avec qui on est soi-disant en guerre, mais en fait, c'est plutôt un territoire qu'ils occupent, un territoire occupé, pour leur dire, ok, vous allez contrôler des gens qui vont passer d'une ville palestinienne à une autre ville palestinienne, parce que c'est pas une frontière, un checkpoint. Hein. Et en même temps, vous avez toute la liberté de fouiller, d'humilier, parce que c'est quelque chose, c'est une brisure psychologique, le checkpoint, au-delà d'être une frontière, pas une frontière, frontière dans le terme politique, mais une frontière... mental. Hein. Les soldats israéliens au checkpoint, chaque soldat se comporte un peu comme si c'était le ministre de la Défense. C'est-à-dire c'est lui qui a le droit de vie ou de mort, entre guillemets, sur un Palestinien. Est-ce que tu passes, est-ce que tu passes pas, ah, tu vas attendre 2 heures ici. Ah non, je sais pas. Attends, je fume ma clope, je vais téléphoner, je reviens dans 1 heure. Enfin, de temps en temps, il y a des gens très méchants. De temps en temps, il y a des gens qui sont complètement paumés. Ils savent pas quoi faire. Enfin, c'est très... c'est un peu la roulette russe, quoi, à chaque fois. Maintenant, le checkpoint en lui-même, c'est quelque chose qui est quand même assez malsain dans l'absolu parce que, encore une fois, c'est pas une frontière. C'est quelque chose qui se fait entre deux villes. Et je sais pas si vous avez vu dans le film, on a quand même tourné dans ce checkpoint terrible où il y a des énormes couloirs en cage. Là, c'est carrément pour faire un parallèle avec la situation des animaux dans le zoo, l'enfermement des Palestiniens et par le mur et par les cages et de checkpoint. Enfin, c'était assez évident. Hein.
Voilà, c'était Rani Masala, donc le réalisateur de Girafada, qui sort aujourd'hui. C'est au cinéma Utopia.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Et on enchaîne donc avec Rio 2, Manu.
Oui, pas vraiment une nouveauté, puisque le film est sorti il y a 2 semaines, mais vacances obligent, à mon avis.
Tu tenais à nous en parler, écoute.
Voilà, il va poursuivre sa carrière au moins pendant 2 semaines. Alors, on prend les mêmes et on recommence. Hein, je dis ça, mais en même temps, j'ai pas vu le premier. Alors, on retrouve. Enfin, moi, je découvre du coup le gentil couple de perroquets et leurs trois enfants jouissant d'une vie de famille à Rio de Janeiro chez de gentils humains écolos. Mais la femme perroquet, on dit ça, la femelle, Perla, insiste pour que la famille s'installe dans la forêt amazonienne alors qu'ils découvrent que d'autres haras bleues y vivent. Alors, pendant ce temps, de méchants promoteurs veulent détruire la forêt. Voilà pour le scénario, c'est un peu léger, mais voilà. Alors pour moi, c'est vraiment l'illustration parfaite et presque gênante de ce qu'on pourrait qualifier de cinéma d'animation industrielle. Hein. Rio 2 vraiment distille un ennui assez profond dans un premier temps. Alors rien de neuf sous le soleil des productions courantes pour nos chères têtes blondes, plus exigeantes malgré tout ce que ne pensent les studios. Hein. Ceux-ci imaginent que reproduire à l'infini des formules toutes faites suffit à satisfaire le public. Mais à force de miser sur une recette jadis gagnante, notamment avec l'âge de glace, puisqu'on retrouve la même équipe derrière, Rio 2 finit par être franchement antipathique. Comment ne pas être énervé devant ces gags lamentables, ces numéros musicaux boursouflés qui tombent à pic à chaque fois que le récit patine, les couleurs qui sont plus criardes que colorées, puis ces dialogues pénibles et référentiels. Pauvre stratagème pour draguer un public adulte, de toute façon présent dans la salle pour accompagner les enfants. Alors je ne comprends pas très bien à chaque fois cette façon de vouloir attirer, séduire les adultes alors que de toute façon ils accompagnent leurs enfants.
Ils n'ont pas le choix.
Bah oui, c'est un peu curieux quand même. Hein. Mais même le message écolo, sympa a priori, hein, sans le cynisme, hein, l'opposition, on va dire, entre la civilisation occidentale et la vie à l'état sauvage, débouche sur une gentille morale consensuelle et un peu grotesque. Hein. Tenons-nous la main et vivons tous ensemble. Alors en tout cas, moi, dans la salle, les gosses n'avaient pas l'air spécialement emballés par le film. C'était très bruyant, les parents couraient après eux. Enfin, je sais pas, au bout de trois quarts d'heure, ils étaient... Non, mais c'était une expérience assez curieuse. J'ai vu beaucoup plus d'enfants passionnés quand j'ai été voir Minuscule, hein, que je conseille s'ils passent encore. Et surtout, les aventures Lego, hein, des films d'animation autrement plus euphorisants.
Oui, ils le ressortent, là, justement, à l'occasion des vacances.
Mais oui, je comprends. Plus qu'il n'y a pas grand-chose qui sort à côté, à part Rio. C'est assez tristouné. Voilà.
Très bien. Donc, eh bien, Rio à ne pas forcément aller voir, mais que vous pouvez néanmoins quand même aller voir. C'est projeté au cinéma Gaumont.
Vous laissez les enfants dans la salle et puis les parents peuvent rester dehors. Hein. Je pense que c'est le
mieux. Voilà, ils s'amuseront entre eux. Et on continue, c'est toujours Cinérama.
Cinérama sur Divergence FM.
Et on poursuit avec eh bien, ce qui pourrait aussi être un dessin animé pour enfants, à en croire le titre « Tom à la ferme ». Alors dans « Tom à la ferme », eh bien, quatrième film de Xavier Dolan, le réalisateur interprète un jeune montréalais, je ne sais absolument pas si ça se dit comme ça, enfin un jeune de Montréal, voilà, qui rejoint la campagne canadienne à l'occasion des funérailles de celui qui partageait sa vie depuis 2 ans. À peine arrivé, le clivage entre le citadin et la famille de fermiers qui l'héberge se fait ressentir au-delà des simples différences sociales. Violent et sadique, le frère du défunt fait rapidement comprendre à Tom que sa mère ignorait tout de la vie amoureuse de son fils et qu'il vaudrait mieux pour lui que cela continue ainsi. Alors, bah, disons-le tout de suite, hein, ce film, c'est pas seulement un chef-d'œuvre, c'est carrément le quatrième chef-d'œuvre de Xavier Dolan, sachant que Dolan a tourné son premier film quand même à l'âge où nous, on fumait encore des joints en terminale. Enfin, les autres, hein, pas moi, je le dis pour mon
D'accord.
père qui écoute.
Moi non plus.
Enfin, moi certainement pas. On retrouve ici à nouveau un vrai talent de cinéaste, un cinéma pétri de références, mais qui, contrairement à Tarantino, ne se contente pas de faire un patchwork de style. Là, je sens que je vais me faire des ennemis. Précisons au fil des œuvres, et Dolan est plutôt prolifique puisqu'il en est à son cinquième film en 5 ans, une identité d'auteur que l'on peut maintenant reconnaître. Avec Tom à la ferme, il sort des chemins qu'il avait tracés avec sa précédente trilogie d'histoires d'amour, des love stories compliquées, baignant dans une atmosphère musicale, pop et colorée, où les déceptions amoureuses se vivaient en slow motion pour confronter son univers à une ambiance hitchcockienne dont la brutalité n'est pas sans rappeler un certain Délivrance. Plus naturaliste, plus brut, notamment grâce à un travail sur la lumière très différent de ses précédentes heures, excusez-moi. Son quatrième film s'oriente résolument vers le thriller, sans renoncer pour autant aux obsessions qui nourrissent ses films d'une manière sans cesse renouvelée. L'homosexualité, l'affrontement des différences, la portée mortifère des sentiments. Ici, les scènes de violence sont tournées comme des scènes de sexe, et les scènes de sexe sont tournées comme des scènes de combat. Les personnages évoluent de façon inattendue au fil des scènes, et la tension monte d'un cran supplémentaire à chaque séquence. Il réussit le périlleux exercice de mettre en scène un huis clos morbide, dans lequel la comédie est toujours présente, mais l'angoisse jamais très loin, l'humour noir qui émaillait auparavant les histoires d'amour qui filmait étant cette fois rattrapé par le thriller. Alors si ses plans semblent moins construits de façon aussi méticuleuse qu'avant, c'est que sa caméra épouse ce qu'elle filme de façon beaucoup plus viscérale et beaucoup plus charnelle. Délaissant son omniscience contemplative, elle passe au gré des séquences, du plan fixe très large au plan très serré, en légère contre-plongée, façon Kechiche presque, puis redevient mouvante pour suivre ses personnages de dos, ce qui est quand même une signature visuelle assez redondante dans sa filmographie. En dehors d'une certaine affirmation stylistique, le film possède une grande force narrative. Prise au piège de cette ferme qui devient une prison à ciel ouvert, Tom passe de prisonnier à victime consentante avant de se transformer en bourreau. Une étroite et complexe relation entre deuil et désir se noue dans le trio, le fantôme du défunt planant sans cesse à leur côté comme un quatrième personnage. Il est presque dommage, en définitive, que l'aura du réalisateur éclipse un peu sa performance d'acteur, parce qu'il interprète ici le premier rôle, il le fait vraiment très très bien, je pense qu'il n'a jamais été aussi bon. Et au final, il est tellement multifonction, parce qu'il écrit, il réalise, il fait les costumes, il fait la musique, il va même jusqu'à faire les sous-titres dans les versions anglaises et françaises.
Il te fascine, Marie.
Il me fascine complètement. En fait, j'aimerais devenir un homme pour qu'il m'épouse, mais je sais que ce n'est pas possible. Et voilà qu'en fait, on en oublie de dire que c'est vraiment un excellent acteur et qu'il n'a vraiment jamais été aussi bon. Enfin, le film est vraiment génialissime, je trouve. Il se renouvelle en 5 ans déjà, alors qu'il en est déjà à son 5e film. Son nouveau film sera visible à Cannes d'ailleurs, il y en est déjà à son 5e film. Celui-ci sort à peine que dans un mois, on pourra découvrir son prochain en compétition à Cannes. En tout cas, je le recommande chaudement, Tom à la ferme, c'est visible au Diago. Et oui, je ne comprenais pas, en fait, tu me faisais des signes depuis tout à l'heure, Vincent.
Nous avons une petite ambiance de la bande-annonce.
Tu m'as complètement perturbé.
Oui, je sais, pardon.
En voyant la bande-annonce. Voilà, donc c'était juste une petite ambiance.
Ça valait le coup.
Peu. Tout ça pour ça. Voilà, c'était pour vous donner un avant-goût de Tom à la ferme que je recommande. Et on poursuit, c'est toujours Cinérama avec
une chronique
sur Yves Boisset, Manu.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Sur Divergence FM.
Alors ça fait un bout de temps que ça me titille de parler d'Yves Boisset, un des cinéastes français les plus sous-estimés de sa génération. Le coffret, là, édité par Studio Canal, réunissant 3 films inédits et plutôt rares tombe à pic, et permet de réhabiliter un artisan du cinéma populaire et engagé, ayant débuté sa carrière comme assistant, entre autres, de Ricardo Freda, Jean-Pierre Melville et Sergio Leone, sur Les Colosses de Rhodes. Alors les 3 titres proposés sont, il y a le très engagé RAS, le plutôt intimiste Allons Enfants, et enfin, le film percutant d'anticipation que toutes les personnes de ma génération ont découvert un soir à la télé à l'avenir du futur, Le Prix du Danger. Alors 3 œuvres rares disponibles dans des copies plus que correctes, hélas pas de Blu-ray à l'horizon. Alors d'abord RAS, longtemps tabou, le sujet épineux de la guerre d'Algérie, n'a guère été traité au cinéma par les Français, trop honteux sur la réalité, pour aborder cette période de l'histoire avec honnêteté. Alors l'amnésie temporaire est plus simple, RAS est l'un des rares films dans les années 60-70 abordant cette période peu glorieuse de la France, avec d'ailleurs avoir 20 ans dans les ORS. En voici un petit extrait.
Mais qu'est-ce qu'ils avaient besoin de filer, ces cons-là ? Je t'ai rappelé, là. Une rafale de mitraillette, puis ils se chient dessus. Tous des brefs, des merdeux. Il y a même des communistes. Il y a même des juifs. C'est normal. Le gouvernement est vendu. Ils sont tous d'accord avec les Fellouzes. Ah, l'indo. L'indo. Ah, c'était autre chose.
Des hommes, c'était.
Ouais, mon gars. C'était des hommes. Aujourd'hui, on est devenu une armée de lopettes. Des lopettes. Hein? Faut Pourquoi ils gêneraient les bics? On baisse le froc. On baisse le froc devant les bics. La France baisse le froc devant les bics. C'est pas beau, ça? Putain de putain.
Putain.
Oui.
Trop joli.
Alors pourquoi RAS, qui veut dire donc rien à signaler, hein, c'est ce qu'inscrivait pendant la guerre d'Algérie l'officier responsable au retour d'une opération où rien de notable s'était passé. Et le film, à la fois subversif et malicieux, décrit donc le quotidien de soldats en attente, dans un premier temps, d'être appelés sur le front, et une fois en Algérie, en attente qu'il se passe quelque chose. En fait, on suit une bande de pieds-nickelés un peu glandeurs avec une propension à filmer, enfin, du moins le réalisateur, des pas mal d'anarchistes en fait dans ce troupeau d'appelés, ce qui est assez assez curieux en fait. Hein. Donc RAS tend quand même un gros doigt à l'armée et par extension à la guerre, tout en préservant quand même les individus assez humains, jamais jugés par leurs fonctions. Alors Boissé, contre toute attente, se révèle là un cinéaste plus subtil que d'habitude, ne traitant jamais le conflit directement, mais tissant le portrait attachant de personnages pittoresques. Voilà, le film provoqua tout de même quelques remous à sa sortie, hein, des coupes, des agitations devant des cinémas et évidemment une demande d'interdiction de la part de l'armée. Depuis, le film est invisible, hein, donc sa sortie DVD est quand même une bénédiction et il faut se jeter dessus. Le suivant, donc Allons-enfants, puisqu'on ne se refait pas et avec une obstination peu courante, hein, Yves Boisset s'en prend à nouveau à l'armée. Nous sommes donc en 79 avec cette adaptation d'un roman d'Yves Gibeau et aussi le plus gros échec en salle du cinéaste.
1, 2, 3, 4.
Et tout à coup, le coq au loin claironne, cocorico de vous petits soldats. Le soleil luit, partout le canon tonne, jeune héros, voici le grand combat. Et Verdun, la victorieuse, pousse un cri de bord de la
barre.
Allez me chercher votre chalumeau.
Chalumeau, sortez les rangs.
Élève chalumeau Timon, première section, matricule 2154, mon capitaine.
Ainsi, chalumeau, vous ne voulez pas chanter?
J'aime pas ces chansons-là, mon capitaine. Et puis pour chanter, faut être gay.
Et vous n'êtes pas gay, chalumeau? Expliquez-vous.
C'est à cause de la vie ici, mon capitaine. Moi, j'ai pas demandé à y aller aux enfants de trou. C'est mon père qui m'a mis là.
Assez ! Vous plierez ! Je vous en donne ma parole !
Alors ?
Oui, mais pour chanter, il faut être gay.
Vous n'êtes pas gay, chérie.
Oui. Alors la Boissé s'attaque à l'école militaire et raconte, on va dire, le calvaire de Chalumeau, jeune homme enrôlé de force par son père gradé, formidable Jean Carmet, dans un de ses rôles assez pitoyables d'ailleurs, dans une école belliqueuse qui finira par briser un jeune homme sensible, cultivé et foncièrement antimilitariste. Alors Lucas Bellevaux, alors acteur, hein, puisqu'il n'était pas encore le réalisateur que l'on connaît, il incarne ici Chalumeau, beau personnage de cinéma qui va s'élever contre la bêtise humaine. Alors Boissé a donné beaucoup de lui-même dans cette adaptation touchante et parfois un peu erratique, un peu raide quand même du roman. Boissé est un peu l'alter ego du jeune homme qui finira par faire une tentative de suicide et mourir bêtement à la guerre. Bon, j'ai un spoiler, mais c'est pas très grave, hein. c'est pas une chute non plus. Alors un cinéaste à la fois optimiste et pessimiste, engagé contre la connerie humaine, qui n'a jamais en fait baissé les bras, sa charge contre l'armée et tous ses principes patriotiques et autoritaires peuvent apparaître un peu désuets aujourd'hui, mais en même temps, le cinéma français contemporain est assez sourd au sujet d'actualités brûlantes et à la contestation. Au mieux, sans se mouiller, ben, on fait du social gentillet. Allons-enfants n'est pas un chef-d'œuvre, mais un beau film sur la résistance humaine face à la bêtise, sur le destin un peu tragique d'un jeune homme capable de préserver ses convictions dans un environnement hostile. Pour conclure, on peut dire que Boisset est moins sombre que Kubrick, qui traitait un sujet un peu similaire dans Full Metal Jacket dans sa première partie. C'est-à-dire que bon, Boisset pense qu'on va pas, on peut pas briser en fait un individu, alors que Kubrick clairement pense que l'armée va briser un individu dans tous les sens du terme. C'est un très beau film. Hein. On va finir donc par La Gourmandise pour la fin avec Le Prix du Danger. Peut-être le film le plus percutant et le plus manichéen de son auteur, hein, Le Prix du Danger, c'est un superbe film d'anticipation, proche du bis, par son rythme haletant, ses enjeux extrêmes, son manichéisme appuyé et globalement, on va dire, son côté franchement décomplexé en matière de représentation du futur.
Et voilà l'hélicoptère qui s'envole. Il va déposer François sur la plus haute tour de la ville, à 2 km d'ici. De cette tour,
François devra par ses propres moyens rejoindre un endroit connu par lui seul. Et cet endroit, il devra le rejoindre dans un délai de 4 heures, temps imparti à notre émission. François réussira-t-il cet exploit? François réussira-t-il cet exploit avec la meute de nos chasseurs lancés à sa poursuite? Ces chasseurs galvanisés par la prime qui les attend. Non, ces chasseurs sont nos amis. Ce sont des garçons courageux. On les applaudit très fort.
Adapté d'une nouvelle de Robert Sheckley, Le Prix du danger est une satire survoltée des médias préfigurant la télé-réalité. Dans un futur proche, donc on l'a entendu dans l'extrait, un jeu télévisé, Le Prix du danger, fait fureur. Donc les règles sont simples, un homme doit parvenir à rejoindre un lieu précis en échappant à 5 traqueurs chargés de le tuer. Si le candidat gagne, il se voit attribuer la somme de 1 million de dollars. Dans le cas contraire, eh bien il meurt. Bon. Et de toute façon, les dés sont truqués dans cette version retransmise en direct des chasses du comte Zaroff. Le présentateur de l'émission, personnage inspiré d'ailleurs de Léon Zitrone, est génialement incarné par un Michel Piccoli, à la fois hystérique et mielleux. Plus qu'à beau tumeur. Dans le rôle du traqué, qui ne va pas se laisser faire, Gérard Lanvin, à l'époque la trentaine, est plus que crédible. Hein, un acteur, c'était un beau jeune homme à l'époque. Hein.
Mais il l'est resté, figure-toi. Il est maintenant un beau cinquantenaire. Bon,
il joue dans le dernier Schindler, il a quand même une gueule bien marquée aujourd'hui. Ouais. Hein. Alors, il s'agit d'une charge énorme, un grotesque, et rentre dedans contre la télévision et les dérives de TF1, chaîne objectivement visée à l'époque. Ce n'est pas toujours très subtil, la charge contre la société du spectacle est loin des analyses complexes d'un Debord ou d'un Baudrillard, mais... Comme spectacle jouissif et subversif, ce film d'anticipation, dans l'esprit de la course à la mort de l'an 2000, n'a pas tant vieilli que ça, en fait, hein, servi par une réalisation efficace, privilégiant l'action à la réflexion. Ben, celle-ci n'étant pas absente, cela dit. Hein, le film fut l'objet aussi d'un remake réalisé par... réalisé par Paul Michael Glaser, le Running Man avec Schwarzenegger. Alors, à l'origine, une adaptation de Stephen King, mais le film de Michael Glaser reprend énormément d'éléments présents dans le Prix du danger. Et il y eut d'ailleurs un procès que les producteurs français ont fini par gagner au bout d'une dizaine d'années. Voilà. Donc, vos porte-monnaies, donc faut acheter ces 3 films qui sont disponibles un peu partout pour, je crois que c'est 29 euros.
C'est voilà. Donné.
Et bien, c'est la chronique.
Non, c'est pas donné, mais bon.
Voilà, ça va, 3 films.
C'est mais c'est, films. Voilà, ce sont des films suffisamment rares pour le signaler.
Très bien, c'est la chronique, je vous pousse au consumérisme Manu Le Gagne, merci. Nous allons maintenant enchaîner avec Frédéric Grousset.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis, et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Bonjour, donc vous êtes un réalisateur montpelliérain. Vous avez réalisé auparavant les films Climax et Aquarium, votre tout dernier film. Paranormal Bad Trip 3D qui vient tout juste d'être fini et projeté à Lyon pendant ce week-end de Pâques. Et en fait, le premier found footage movie en 3D, non seulement à avoir été fait en France, mais dans le monde entier. Et il est donc montpelliérain. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de ce projet?
Alors, ben, bonjour à tous d'abord. La genèse du projet, ben, en fait, c'était l'idée de réaliser déjà un found footage à la base. Found footage de manière à utiliser les acteurs... mes acteurs fétiches qui m'ont suivi depuis Aquarium, pour me servir en fait de leur sens de l'improvisation. Je voulais vraiment travailler sur l'impro du coup le found footage était quand même vachement adapté à cette façon de jouer. Et puis mon chef opérateur Johan Valette, qui me suit aussi depuis Aquarium, m'a dit ok, on le fait, mais on le fait en 3D. Donc au début j'étais un petit peu sceptique. Et puis après, on a beaucoup discuté, on s'est dit que ça serait quand même intéressant, effectivement, non seulement de le faire en 3D, c'est-à-dire de tenter le coup, et puis en plus, on s'est dit que ça allait peut-être aussi renforcer encore plus l'immersion, puisque le found footage, en fait, c'est aussi une technique cinématographique qui permet aussi de renforcer l'immersion, en fait, du spectateur dans le film, lui donner une impression de vérité. Et du coup, la 3D, même s'il y a ce petit côté un peu factice, un petit peu... Fête foraine permet aussi aux spectateurs de rentrer bien dans les images et du coup le mélange des deux nous semblait intéressant à tenter quoi.
Alors, on se pose forcément la question du financement pour un film montpelliérain. Est-ce qu'il s'agit d'un film autoproduit ?
Alors, c'est pas un film autoproduit, c'est mon premier film réellement produit, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vraiment un tout petit budget. Mais il a été produit par la société de distribution Artist Film, c'est une société montpelliéraine aussi, qui est spécialisée dans la distribution de DVD de patrimoine fantastique européen et puis maintenant mondial. Enfin, il distribue aussi des films américains, des films américains d'exploitation. Du coup, c'est des personnes que je connais depuis quand même pas mal d'années, c'est eux qui ont aussi sorti Climax en DVD et puis avec en bonus Aquarium. Du coup, je leur ai proposé le projet, ils voulaient se lancer un peu dans la prod, et du coup, ils se sont dit, pourquoi pas, allons-y, quoi. Et ils ont pensé que ça pouvait être une bonne idée de commencer par là, un petit budget, en plus, en 3D. Enfin, c'était la première fois qu'on faisait ça en France, en tout cas, à ce niveau de budget. Et puis, même le concept, comme vous l'avez dit, qui est quand même un concept, pour l'instant, exclusivement montpelliérain, du coup, puisque c'est le premier, donc, full footage en 3D de l'histoire du cinéma, quoi.
Et alors, est-ce que le film a été soutenu par la région au niveau financement, au niveau peut-être des projections qui ont été proposées ici à Montpellier, ou pas du tout ?
Alors, pas du tout. En même temps, on n'a pas forcément ouvert des portes pour essayer de trouver un financement auprès de la région. On peut dire quand même que c'est pas forcément le cinéma qui soutienne en premier. Pour l'instant, en plus, le film a été effectivement projeté à Lyon lundi, mais on n'a pas encore fait de tournée vraiment de festival ou de proposition de projection sur la région. Ça va venir dans un deuxième temps. Là, on part à Cannes avec le film sous le bras au marché du film. On a une salle de projection qui est réservée. Et puis, on va essayer d'inviter les personnes de la région, les personnes du cinémed, pour voir le film et puis voir avec eux si, effectivement, il y a possibilité de faire une petite projection. Un petit événement autour du film sur Montpellier, ça serait intéressant, je pense.
Très bien. Eh bien, écoutez, Frédéric Grousset, merci beaucoup, en espérant donc avoir droit à une projection très prochainement de Paranormal Bad Trip 3D dans la ville de Montpellier. Eh bien, on va terminer ce cinérama avec un montage, Vincent. On est complètement en retard, mais alors on s'en fout parce que c'est ma dernière, donc on fait ce qu'on veut. Ouais. Voilà, on s'en fout, on peut balancer des trucs en l'air, voilà, comme ça. Et donc, un montage que tu as fait.
Oui, c'est une petite surprise. Ça reprend un peu... Enfin, ça commence avec la toute première émission à laquelle tu as participé de cinérama. C'était en avril 2011, je crois.
Oui, il y a 3 ans.
Eh oui. Et puis...
J'étais jeune et innocente à l'époque.
Eh oui, et on en vient à peu près à la dernière. À peu près une de tes dernières chroniques, voilà, j'ai du mal à trouver mes mots, quelle émotion. Et donc c'est 3 petites minutes, hein, ça aurait pu durer un peu plus longtemps, mais voilà, c'est un petit cadeau d'adieu et ce sera en guise de générique de fin finalement. Hein, voilà. Merci Marine en tout cas.
Merci Marine,
merci à vous.
Adieu.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama du mercredi 27 avril. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Ils veulent que cette femme soit soignée comme une reine. Il paraît qu'elle est top priorité.
Qui est une nouvelle voix, pour le coup, dans Cinérama, une nouvelle personnalité aussi à découvrir donc dans cette émission.
Pour l'amour du ciel, nous nous trouvons pour la première fois devant un spécimen de ce genre. Et sa perfection structurale n'a d'égal que son hostilité.
Le public va en raffoler.
Je vais vous parler pour le coup d'un film... Pas du tout dans le même registre, mais complètement involontairement comique.
Je t'en prie, cache ta joie. Enfin, c'est pas grave.
Puisque je vais vous parler du Chaperon Rouge de Catherine Hardwicke.
Ça me touche beaucoup que tu en parles.
En définitive, un chaperon davantage rose que rouge, dans un film que l'on aurait souhaité plus sanglant, plus sensuel et surtout moins sirupeux.
J'en ai assez entendu.
Pour vous donner encore envie de ne pas y aller, on a la bande-annonce.
Sex Friends, Sex Entre Amis, Sexy Dance, Sex List et We Want Sex Equality.
Je ne sais pas si vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. C'est un état d'esprit.
On aurait aimé des propositions formelles fortes comme celle de ses premiers films ou une vision ésotérique du monde un peu surprenante comme celle de The Fountain.
Quoi ?
Il n'en est rien.
Je m'excuse madame, mais j'ai bien peur qu'il y ait un malentendu. Vous avez peut-être mal compris, mais en tout cas, ce n'est plus du tout ce que je fais aujourd'hui.
Dès les premières scènes, on comprend que le film sera un supplice et que nous serons des martyrs pendant les 2h30 qu'il dure mélange douteux du Seigneur des Anneaux pour les décors dont Noé s'inspire clairement, de Peplum mou, de Tree of Life pour le discours mystico-chiant et le scénario basé autour de la famille Noé ne sait trop sur quel pied danser et perd le spectateur dès les premières minutes.
Ça, c'est vraiment dégueulasse ce que tu viens de dire. Et ça m'étonne pas de toi.
C'est donc finalement sur une overdose de Botox et d'auto-bronzant, élément principal d'un casting de mauvais goût pour un film bancal, que j'ai fini par sortir de la salle.
Voici les faits.
Avec la ferme intention d'égorger une vierge pour l'offrir en sacrifice au dieu du cinéma. Dans l'espoir d'effacer de ma mémoire ce ratage total.
Comment vous y allez ?
Premièrement, oubliez le montage, la mise en scène, le scénario et les dialogues. Lorsque vous êtes le fils de Claude Berry, vous n'avez pas besoin de savoir maîtriser ces vulgaires techniques de cinéma.
Ça fait un peu cliché, vous ne trouvez pas ?
C'est pourtant la vérité.
C'est une palme d'or qui aura au moins le mérite de concilier succès critique et succès public, ce qui est assez peu fréquent quand même. Donc allez le voir, hein, c'est un très bon film.
Elle plaisante.
Malgré de légers bémols.
Vous avez ma sympathie.
On oscille ainsi entre le sordide et le sirupeux, sans savoir réellement quel est le sentiment que la cinéaste cherche à transmettre.
Tu sais, ça aurait pu être pire.
Alors, la plus grande qualité de ce Kit Harington, sa plus grande qualité d'acteur, c'est malheureusement de posséder plus d'abdos que d'expressions faciales. J'ai compté, j'ai eu 1h45 pour le faire, il a très exactement 8 abdos, ce qui est beaucoup, ce qui est vraiment beaucoup. En revanche, il arrive à faire 2 têtes différentes, ce qui n'est pas assez pour avoir un Oscar.
Oui, tout à fait. Bon, je veux bien admettre que de temps en temps, elle est un peu perdue et qu'elle se laisse entraîner dans des choses qu'elle ne comprend pas.
Vous sembliez ne pas comprendre que vous n'aurez plus jamais ce genre de soucis. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais.